Bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Chloé Bidet.
Bienvenue chez vous dans les Deux-Charentes, c'est votre rendez-vous quotidien entre 10h et 11h sur France Bleu La Rochelle. Chaque jour, donc, on vous emmène découvrir des parcours, des passions de celles et ceux qui font nos Deux-Charentes à travers leur métier et activité. Aujourd'hui, on va repenser notre assiette, notamment pour préserver l'océan, grâce à une association rochelaise, Bluetopia. Et derrière cette association, ce sont deux noms que l'on retrouve, notamment Mallory et Julien. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Chloé.
Bonjour à tous et bonjour à Daniel.
Ma grand-mère qui nous écoute depuis Châteauneuf-sur-Charente.
Et bon, on lui fait un gros bisou alors à Daniel. Alors ça fait combien de temps qu'existe Bluetopia? Comment on pourrait définir Bluetopia en quelques mots?
Eh bien, ça fait déjà 6 ans que Bluetopia existe, le temps passe vite. Et notre mission, c'est de réinventer notre alimentation pour préserver l'océan.
Et pourquoi vous êtes-vous lancés là-dedans tous les deux? Qu'est-ce qui vous a donné envie de monter Bluetopia?
Alors moi, faut savoir qu'avant de créer Bluetopia, du coup en mars 2018, j'étais instructeur de plongée. Donc j'ai eu la chance de plonger, de mettre la tête sous l'eau dans les plus beaux endroits du monde, notamment aux Maldives, ce qui m'a permis également d'exploser mon empreinte carbone. Mais j'en suis revenu avec un déclic et cette envie de véritablement agir pour préserver tout ce qu'il y a sous l'eau. Et en rentrant des Maldives avec Mallory, on a décidé de cofonder Bluetopia.
Et qu'est-ce que vous avez vu alors aux Maldives sous l'eau? Il y avait l'océan était détérioré quand même.
Oui, alors on voyait quand même des choses vraiment incroyables, des raies-manta, des tortues, des requins à chaque plongée, mais on voyait également des récifs coralliens fortement endommagés. Et l'avantage entre guillemets de vivre sur une île qui fait 900 mètres sur 200, on se rend très vite compte de ce qui va pas, notamment ce qui est le plus visible à l'époque, c'était les déchets plastiques. Et puis après, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on commence à s'informer, on regarde des documentaires, on lit des rapports, et on se rend compte que le plastique est un fléau, mais il y a d'autres secteurs qui ont énormément d'impact, et notamment ce qu'on met dans notre assiette.
Et entre l'idée et le jour où Bluetopia donc est né, il s'est passé combien de temps? Ça a pris combien de semaines, de mois ou d'années? Je ne sais pas.
Moi, je pense que c'est allé assez vite. Hein. Ça se compte en jours. Donc il y a eu évidemment les moments que Julien a passé aux Maldives. Moi, j'ai grandi à La Rochelle, donc toujours très proche de l'océan Atlantique, avec le surf notamment qui m'a rapproché de l'océan. Et ensuite, on a regardé deux films documentaires qui nous ont vraiment fait tout changer presque du jour au lendemain. Un film sur le plastique, donc A Plastic Ocean, et un film sur l'élevage, Cospiracy. Et après ces deux films, on a tout changé dans notre quotidien, on a limité nos déchets, on est devenu végétalien et végétalienne avec Julien. Et très vite, on s'est dit, ça suffit pas, il faut qu'on aille beaucoup plus loin, il faut qu'on embarque des gens avec nous, et on a créé Bluetopia.
Avec des actions qu'on va développer bien sûr ce matin sur France Bleu La Rochelle. Il sera notamment aussi question de documentaires forcément. Ça fait partie aussi de vos missions avec Bluetopia. Mallory et Julien sont nos invités ce matin sur France Bleu La Rochelle. Et d'ici quelques instants, on va découvrir aussi un autre axe. Eh bien, avec l'invité que vous avez choisi de mettre en avant, Salomé de Systémique, qui sera également à nos côtés. Vous allez découvrir pourquoi.
France Bleu La Rochelle, 10h, 11h. Bienvenue chez vous.
Aujourd'hui, on vous présente l'association Bluetopia avec Mallory et Julien qui l'ont fondée, association rochelaise qui permet de préserver l'océan et de montrer aussi que ça passe eh bien par l'assiette. Forcément, en chaque début d'émission, eh bien nos invités ont la possibilité de mettre d'autres personnes en avant et aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en avant l'association Systémique. Mallory, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment est-ce que vous avez rencontré les personnes de cette association?
Oui, alors je sais plus trop comment on s'est rencontrés, mais c'était par Maxime qui a cofondé Systémique. Et en fait, on a fait un épisode de podcast récemment parce qu'on a un podcast chez Bluetopia qui s'appelle Ondine. Et c'était sur l'aquaculture. Et justement, Systémique parle de l'aquaculture et de la salmoniculture, donc de la culture de saumon, enfin de l'élevage de saumon plutôt. Et donc, on a échangé avec Maxime, avec Esther et avec Salomé qui est à l'antenne avec nous aujourd'hui.
Bonjour Salomé!
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur France Bleu La Rochelle. Alors, est-ce que vous pouvez présenter du coup l'association Systémique et ce que vous faites au quotidien?
Oui, bien sûr. Alors, merci d'avoir à Bluetopia et à vous pour nous avoir invités. Donc, Systémique, c'est une association toute récente qui a été montée en novembre pour venir en soutien aux secours agissants et donc pour protéger les océans qui sont donc la première source de vie sur Terre. Et en fait, on est parti du constat que cette première source de vie, elle est menacée par la surpêche, qui est la première cause de destruction des océans. Donc Systémique, c'est on a une approche globale puisqu'on vient englober la condition animale, l'environnement, la société humaine dans son ensemble, qu'il s'agisse de la santé ou de la justice sociale.
Et vous allez sensibiliser du coup notamment autour du saumon, comme l'évoquait Mallory. Pourquoi le saumon en particulier? Quelle est la réalité des faits aujourd'hui sur le saumon?
Alors oui, on a choisi comme premier combat le saumon parce que la France a une responsabilité immense. On est le deuxième consommateur mondial de saumon après le Japon. Alors que malgré l'imaginaire collectif qu'on a du saumon, c'est l'espèce de poisson qui a les impacts les plus délétères, que ce soit pour l'environnement, puisque l'élevage de saumon implique énormément de surpêche et de déforestation, pour la sécurité alimentaire, parce qu'on nous dit que on vient nourrir une population croissante, mais en fait l'industrie du saumon détourne beaucoup plus de ressources alimentaires qu'elle n'en produit. On nous dit que c'est bon pour la santé, mais évidemment les saumons sont des poissons carnivores, donc ils viennent accumuler tous les produits toxiques qui sont déjà dans la chair des petits poissons, qui sont présents dans les océans. Donc voilà, la consommation de poissons est l'une des principales causes d'exposition du corps humain aux microplastiques, aux produits toxiques. Et puis enfin, en termes de conditions animales, les élevages de saumons sont absolument désastreux puisqu'ils utilisent des densités extrêmes, donc les poissons sont très stressés. Il propage beaucoup de maladies, donc voilà pourquoi on a choisi le saumon comme premier combat.
On en parle assez peu, mais vous êtes là aussi pour sensibiliser, et c'est chouette. Mais du coup, il y a des élevages qui existent, donc vous parlez de conditions animales là-dessus. Les élevages sont situés où et sont vraiment de mauvaises conditions pour les poissons?
Alors oui, alors pour l'instant, la majorité des élevages se trouvent en Norvège, au Japon, au Chili. Mais en fait, on a un projet qui est tout proche de chez nous, à 2 heures de Bordeaux. On a peut-être l'usine de saumon qui serait la plus grande usine au monde, en fait, qui veut se construire, Converdon-sur-Mer. Donc, ce serait pour produire 3 millions de saumons par an. Donc, évidemment, il se présente comme une alternative, comme une ferme écologique, mais ils viennent augmenter les capacités de production et donc aggraver tous les effets délétères de l'industrie. En se présentant comme voilà une usine locale, circuit court, mais pour nourrir des millions de poissons carnivores, il faut évidemment faire énormément de surpêche dans des zones fragilisées déjà, qui ont une pression écologique énorme, comme en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, des projets comme Pure Salmon, nous on aimerait que ça ne voit jamais le jour, donc c'est pour ça qu'on s'est aussi associé à d'autres associations pour sensibiliser et faire comprendre que même si c'est local, une usine comme ça n'a rien de local parce que évidemment elle va importer ses œufs d'Islande, elle va aller chercher l'alimentation des saumons, on l'a dit, en Antarctique, en Afrique de l'Ouest, en Amazonie, où on va aussi déforester pour créer des protéines végétales, parce que même si les saumons sont des poissons carnivores, ils ont également, en fait, pour essayer de réduire la part de protéines animales, on va chercher des protéines végétales. Donc voilà, il y a beaucoup d'impacts délétères et multisectoriels. Et une usine comme ça, elle n'a pas sa place en France.
Donc, il devrait s'installer donc au Verdon-sur-Mer. On est à la limite du Médoc et presque en Charente-Maritime aussi, juste en face avec Royan. Salomé, vous restez avec nous. On va continuer à parler, à échanger dans un instant sur France Bleu La Rochelle autour de systémique et aussi des alternatives qui sont possibles, qui existent, à la consommation du saumon et même du poisson en général. Vous avez commencé à l'évoquer. On va continuer à en parler dans un instant également avec Mallory et Julien, nos invités de l'association rochelaise Bluetopia qui aide à préserver l'océan. Avant ça, on joue et on vous offre votre tablier de cuisine France Bleu La Rochelle et votre livre de cuisine pour cuisiner avec les enfants, les petits-enfants. C'est des recettes très simples à faire à la maison avec des recettes de gâteaux, donc pour vous faire plaisir. Mais pour ça, il faut nous dire comment appelle-t-on les algues utilisées dans la cuisine japonaise, notamment pour la réalisation de maki, qu'on peut consommer aussi sans saumon, évidemment. Des algues, c'est une algue rouge. Est-ce que c'est la laitue de mer, la spiruline ou l'algue nori? Comment appelle-t-on les algues utilisées traditionnellement dans la cuisine japonaise? Est-ce que c'est la laitue de mer, la spiruline ou l'algue nori, donc pour utiliser notamment dans la réalisation de maki? À vous de nous le dire au 05 46 50 67 68 05 46 50 67 68.
Cuisine, patrimoine et découverte. Bienvenue chez vous jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle.
On joue ce matin et on vous offre votre tablier de cuisine ainsi que votre livre de cuisine pour cuisiner avec les enfants, 40 recettes ultra simples aussi pour vous faire plaisir. Hein, pour vous, ça c'est possible aussi. C'est Jérôme qui est avec nous depuis Saint-Augustin. Bonjour Jérôme.
Bonjour à tous.
Alors on évoquait les algues, des algues rouges notamment utilisées dans la cuisine japonaise. Est-ce que c'est de la laitue de mer, de la spiruline ou de l'algue nori dont dont on parle.
Eh bien, c'est l'algue nori.
Effectivement, l'algue nori qui est pas mal utilisée forcément dans la conception de maquis, mais pas que, hein, elle peut se consommer sous différentes formes. Et c'est une bonne réponse, c'est gagné pour vous. Vous repartez avec le tablier de cuisine France Bleu La Rochelle et le livre de cuisine pour les enfants.
Bien, merci à toute votre équipe.
Eh bien, avec grand plaisir. Quel est le programme pour vous ce mercredi ?
Oh, c'est de la voiture, c'est de la route pour partir travailler un petit peu plus loin. Ouais.
Très bien. Bon, ben, bon courage pour la route alors, Jérôme.
Merci beaucoup. Oui, très bonne journée à tous.
À très bientôt.
Merci.
Il est 10h22 et on continue à échanger avec nos invités. Nous sommes ce matin avec Mallory et Julien, donc de Bloutopia à La Rochelle et Salomé de l'association Systémique. Mallory, Julien, la consommation d'algues, justement, c'est quelque chose que vous avez découvert au moment où vous avez décidé de passer végétalien?
Alors, on l'a pas découvert tout de suite, on l'a découvert un peu plus tard quand on a fait notre film documentaire sur les liens entre alimentation et océan qui s'appelle De l'assiette à l'océan, et on a rencontré Tanguy et Hélène sur l'île de Ré qui sont les fondateurs et fondatrices d'Algorithmes, des algues de l'île de Ré. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on n'a pas mis des algues dans nos assiettes plus tôt? Et depuis, on en mange quasiment tous les jours.
Ah oui, au quotidien, ouais. Il y a de nombreux bienfaits aussi pour la santé autour de tout ça.
Il y a plein de bienfaits pour la santé, c'est plein. En fait, c'est des légumes de la mer, on a l'impression que c'est les algues, c'est une seule et même espèce. Mais il y en a plein qu'on ne connaît pas forcément. Il y a la nori dont on a parlé, la laitue de mer, la onori, le wakame. Et en fait, chaque algue a ses propres propriétés, ses bienfaits nutritionnels. Et donc, on peut les intégrer de plein de manières différentes et avoir tous ces bienfaits-là, des protéines, des vitamines, des nutriments.
Salomé, vous aussi, vous consommez des algues au quotidien?
Alors oui, bien sûr, moi aussi je suis une grande fan, je trouve que c'est une alternative absolument fantastique, puisque quand on aime le goût de l'iode, mais qu'on arrête de manger du poisson, en effet, on peut se tourner vers les algues. Donc, moi j'en consomme assez régulièrement en tartare, avec de l'huile d'olive, du citron, on se régale et puis on sait que c'est bien pour notre santé, donc je trouve que c'est une super chouette alternative.
Quelles sont les alternatives justement que vous mettez en avant avec Systémique pour éviter la consommation de poissons et plus particulièrement du saumon? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui qu'on peut trouver près de chez nous pour compenser entre guillemets cette consommation?
Alors l'ingrédient que presque toute famille ou en tout cas tout le monde a dans sa cuisine, c'est l'huile de colza. En général, elle est mise en avant pour ses apports en oméga 3.
Oui.
Et finalement faux, puisque 90% des Français sont en carence en oméga 3. Et pourtant, on peut les trouver donc dans l'huile de colza, en consommant tous les jours un petit peu, en cuisinant. Ça permet de répondre aux apports. L'huile de lin également, qui est un petit peu plus chère, mais on peut les trouver également dans les graines de lin moulu, dans les noix. Les oméga 3, on en trouve à peu près dans toutes ces oléagineux. Qui sont finalement accessibles et moins chers qu'un pavé de saumon tous les jours. On met en avant également en fait l'aquaculture de sable niveau trophique, donc comme vous l'avez dit, les algues qui répondent à tous les autres éléments. Donc voilà, on n'a vraiment pas besoin du poisson, puisque au final, toutes ces alternatives végétales permettent d'avoir les apports et les nutriments sans les inconvénients du poisson, qui sont tous ces produits toxiques et ces métaux lourds qui se retrouvent dans la chair des poissons.
Quels sont les projets pour Systémique pour les prochaines semaines, les prochains mois? On a parlé de la mobilisation avec ce projet de ferme aquacole au Verdon-sur-Mer, mais vous avez d'autres axes aussi de mobilisation, de sensibilisation aussi du public?
Oui, alors on s'est associé avec l'association Well Farm également pour mettre en place un moratoire. En fait, on demande un moratoire sur l'autorisation des nouveaux élevages pour que l'État, des nouveaux élevages de saumon à terre comme sur Salmon. Donc, pour que l'État arrête d'investir dans des projets destructeurs du vivant et au contraire vienne investir dans des alternatives végétales, dans de l'aquaculture de faible niveau trophique, pour que l'État puisse sensibiliser à la santé publique, puisqu'on est vraiment dans une démarche de co-responsabilité, même si nous, les individus, nous pouvons, par notre part, et nous pouvons réduire notre consommation de poissons. L'État et les entreprises ont également une grande responsabilité pour planifier cette transition alimentaire et proposer des menus savoureux et équilibrés.
Julien, Mallory, vous réfléchissez aussi parfois à des projets communs avec des associations comme Systémique ou d'autres?
Oui, bah complètement. Donc c'est pour ça qu'on a voulu inviter Salomé et Systémique. On est, je pense, deux structures, même deux associations complètement complémentaires. Nous, chez le Butopia, depuis 2018, on se concentre essentiellement sur l'action individuelle. Mais maintenant que l'asso a 6 ans, on a un peu plus de moyens, de crédibilité, de notoriété. Et donc c'est pour ça qu'on réfléchit de plus en plus à lancer des projets collectifs à plus grande envergure et essayer d'aller taper aux portes des décideurs et de celles et ceux qui ont le pouvoir dans ce pays.
Merci Salomé en tout cas d'avoir été avec nous ce matin sur France Bleu La Rochelle.
Merci à vous.
Et à très vite, systémique.org donc pour retrouver eh bien les différentes actions de l'association. Et on va continuer à parler de Bloutopia aussi, association rochelaise, donc fondée par Valérie et Julien, qui sont nos invités ce matin. Donc sur France Bleu, on va évoquer les différentes missions et actions donc proposées par Bloutopia depuis 2018.
10h-11h, bienvenue chez vous sur France Bleu La Rochelle. Chloé Bidet.
Et on est ravis comme chaque jour de découvrir des projets, des passions, des métiers. Aujourd'hui, nous sommes avec Valérie et Julien. Ils ont fondé Bloutopia en 2018, une association qui se charge et sensibilise autour de la préservation de l'océan. Ça passe aussi par l'assiette, comme on peut le voir depuis ce début d'émission. D'ailleurs, on n'a pas évoqué, vous avez fait un poisson d'avril aussi à ce sujet, autour du saumon, Mallory.
Oui, on a bien rigolé il y a deux jours, du coup, pour le 1er avril. On a décidé de faire une collaboration avec Systémique, donc l'association de Salomé. Et l'idée, c'était de reprendre en fait les arguments de la ferme, ce qu'ils appellent ferme, entre guillemets, Pure Salmon, parce qu'en fait, quand on va sur leur site, on a l'impression que le projet, c'est le meilleur projet du monde, que les saumons seront très bien traités, que ce sera un projet écolo, parce qu'il y a des panneaux solaires sur les toits et que l'eau est en système fermé, et qu'en plus, ce sera éthique, parce qu'on va créer de l'emploi, et donc on a repris leurs arguments, et puis le lendemain, on a démonté en fait tous ces arguments en montrant que, même si ça a l'air crédible, c'est pas du tout ce que Pure Salmon a envie de nous faire croire.
Toujours dans l'explication aussi, la pédagogie, ça fait partie de l'ADN aussi de Bloutopia, Julien ?
Ouais, totalement. Donc chez Bloutopia, depuis 2018, on a trois piliers d'action. Donc on mène des campagnes d'impact et à chaque fois, on essaye d'inspirer avec nos documentaires. On essaye de former justement grâce à nos programmes pédagogiques pour les plus jeunes et des masterclass ou le podcast Ondine pour les moins jeunes. Et enfin, au-delà de la pédagogie, on facilite véritablement le passage à l'action avec des livrets de recettes et des ateliers culinaires pour montrer qu'il est tout à fait abordable et même très facile d'allier le goût du plaisir et la préservation de l'océan.
Si on remonte à 2018, c'était quoi les premières actions de Bloutopia ? Comment ça a démarré ?
Ça a démarré avec une première campagne d'impact sur le plastique parce qu'en fait on se disait c'est ce qui est de plus visible quand nous on va surfer, plonger, se balader sur la plage, ce qu'on voyait c'était du plastique et on s'est dit il faut vraiment qu'on essaye de faire notre part et de limiter cette pollution plastique et donc on est parti pour faire une série documentaire sur les solutions à la pollution plastique parce que notre angle aussi on l'a pas dit c'est toujours évidemment de parler des problèmes parce qu'il faut bien comprendre ce qui se passe mais après d'apporter des solutions pour résoudre ces problèmes là et donc on a fait une première série documentaire qui s'appelait L'autre confort, qui s'appelle toujours d'ailleurs L'autre confort, sur les solutions à la pollution plastique. On est parti en Asie du Sud-Est. Encore une fois, on a explosé notre empreinte carbone en prenant l'avion et on est allé rencontrer des personnes qui avaient des solutions pour lutter contre la pollution plastique.
Et quel genre de solution est-ce qu'on propose aujourd'hui en 2024 pour lutter contre cette pollution plastique ?
Aujourd'hui, nous, ce qu'on dit, c'est que il faut réduire, et c'est ce qu'on disait déjà d'ailleurs en 2018, il faut réduire à la source. Et le recyclage, c'est un peu s'attaquer aux symptômes, mais pas à la cause du problème. Mais en fait, en tant qu'individu, c'est compliqué, et il faut agir au niveau des industries si on veut vraiment que ça change à plus grande échelle. Et c'est pour ça qu'aussi, nous, on a décidé après de se concentrer sur l'alimentation, parce qu'on mange deux fois, trois fois, quatre fois par jour si on est très gourmand. Et là, on peut avoir beaucoup plus d'impact et plus rapidement.
Est-ce que vous trouvez que ça a changé quand même depuis 2018 et le début de votre engagement, qu'il y ait une prise de conscience, que ça a évolué dans le bon sens ou pas totalement ?
Oui, non, on sent qu'il y a vraiment une tendance de fond, ça va véritablement dans le bon sens, aussi bien d'un point de vue des déchets plastiques, mais même au niveau de l'alimentation. On sent qu'aujourd'hui, quand on dit qu'on est végétarien ou végétalien, on nous crache pas dessus ou on se moque pas de nous, quoi. Les mœurs sont en train de changer. Tout va beaucoup trop lentement. On aimerait que ça aille beaucoup plus rapidement, mais on est là pour ça. C'est pour ça qu'il y a des assos.
On va continuer à parler de votre sensibilisation autour de tout ça, de la préservation de l'océan et de tout ce qui nous entoure forcément. C'est la mission de Bloutopia avec Mallory et Julien donc, qui en sont à la tête et qui sont nos invités ce matin sur France Bleu.
Bienvenue. Bienvenue chez vous, 10h-11h sur France Bleu La Rochelle.
On parle aujourd'hui de Bluetopia, une association donc qui aide à envisager un océan sans pollution. On retrouve Mallory et Julien, nos invités, pour parler de tout ça. Vous avez lancé un podcast aussi qui s'appelle Ondine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce podcast? Qu'est-ce que vous apportez, Mallory? Comment elle est venue cette idée aussi?
Ouais, cette idée elle est venue de nos films documentaires, parce qu'en fait on fait des films chez Bluetopia, on l'a dit, et on rencontre beaucoup de personnes pour faire nos films documentaires. Sur le dernier, par exemple, on a eu plus de 50 personnes. Les interviews, elles durent entre 15 minutes et plus d'une heure parfois pour les gens qui sont les plus bavards. Et on se retrouve avec des bandes-sons audio, plein de discussions absolument passionnantes, mais qu'on peut pas forcément partager dans nos films qui durent 52 minutes ou 90 minutes. Et on s'est dit que c'était dommage de les garder sur notre ordinateur ou sur nos disques durs, et qu'on avait envie de les partager. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée du podcast Ondine, qui est le podcast qui vous aide à bien manger sans détraquer l'océan. Et donc l'idée, c'est dans chaque épisode d'aller explorer un sujet, d'aller voir différentes personnes, et donc de réutiliser ces pistes audio qu'on a pu enregistrer pour nos films documentaires et de donner des solutions aussi sur le sujet.
Quelles sont les thématiques un peu plus précises? Vous avez des exemples à nous donner de ce qui a été posté pour l'instant?
Ouais, pour l'instant, il y a toute la série d'épisodes sur la pêche qui est sortie, donc sur la surpêche, sur les différentes pollutions qui sont oubliées aussi de la pêche, dont on parle peu souvent, comme l'empreinte carbone ou comme la pollution plastique liée aux engins de pêche. Et le dernier, c'est sur les algues vertes en Bretagne, et comprendre un peu le phénomène, d'où est-ce qu'il vient, et notamment de la surproduction animale et de l'utilisation d'engrais.
Comment ça se passe sur la préparation de documentaires, Julien, de décider de la thématique, du coup aller à la rencontre, enfin s'il y a une cinquantaine de personnes à rencontrer, des enregistrements, ça prend combien de temps finalement?
Alors tout dépend du nombre de l'équipe. Nous chez Bluetopia à l'époque, donc c'était en 2021, donc c'est l'année où on a vraiment construit le deuxième documentaire de l'Assiette à l'Océan. Donc il a fallu faire un premier dossier de production, faire des recherches. Donc là on a la chance d'être au 21e siècle et d'avoir accès facilement à des ressources et à des contacts, notamment via Internet. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce listing, il faut contacter les personnes, leur présenter le projet, être sûr qu'ils soient partants et partantes. Et après, il faut aller trouver les financements. Donc on a tout fait grosso modo à deux pour De l'assiette à l'océan, et là pour notre troisième documentaire sur les bienfaits des algues, étant donné que l'association se développe, grandit, on a beaucoup plus d'ambition, et donc là on a constitué une véritable équipe et on cherche actuellement une boîte de production pour produire notre troisième documentaire, d'où le titre provisoire et les bonnes vivantes.
On va parler du coup.
On va parler des bienfaits des algues et partager l'histoire touchante et bouleversante de Tanguy Hélène qu'on a rencontré lors du tournage de l'Assiette à l'Océan, pour montrer leur parcours, leur réussite, leurs difficultés également, et avoir aussi une vision globale de la filière algues en France, parce que c'est une filière en plein essor, en plein développement, mais qui a besoin d'être accompagnée, soutenue, aussi bien par les pouvoirs publics que par les citoyens et citoyennes, pour leur montrer qu'en France, on est prêt et on a envie de manger des algues, et Bluetopia s'est donné cette mission.
Il y a eu des documentaires donc déjà de réaliser. Comment ça se passe une fois qu'ils sont faits? On vient à votre premier documentaire, après il faut réussir à aller le projeter, le montrer. Ça s'est passé comment?
Ouais, alors le tout premier, L'autre confort, et on l'a terminé entre deux confinements, donc nos plans ont été un peu bouleversés. On l'a projeté quelques fois, et il y a des personnes qui sont venues à nous aussi pour nous demander de le projeter dans des associations, dans des lieux grand public. Et le deuxième documentaire, De l'assiette à l'océan, là ça a été un peu différent. On a sorti une version provisoire en septembre 2022 pour notre festival sur La Rochelle qu'on a fait à la Fabuleuse Cantine et au Francin. Et une fois qu'on avait sorti la version provisoire, on a organisé plein de projections avec des bénévoles, avec des associations, avec des tiers-lieux un peu partout en France. C'est allé jusqu'au Maroc et au Canada.
Génial.
Donc c'est allé même plus loin que les frontières de la France. Et maintenant, on a la version définitive de ce film, et donc on le présente sur des festivals de films. On fait des projections dans des cinémas. Là, on part juste après l'émission dans le Limousin pour un festival qui s'appelle Horizon Vert, pour présenter le film. Donc voilà, on bouge aussi pas mal, et on va à la rencontre des spectateurs et spectatrices pour échanger avec ces personnes-là à la fin des diffusions.
Ça doit être super enrichissant, en tout cas, de pouvoir échanger avec le public. On va continuer à en parler, de parler aussi de vos projets, de ce qui attend Blutopia dans les prochains mois sur France Bleu La Rochelle. Mallory et Julien sont nos invités. Donc, cette association Rochelaise qui tente de préserver l'océan aussi par de la sensibilisation. On l'a dit, ça passe aussi par la sensibilisation du jeune public et le podcast Ondine. On continue à en parler, donc, dans 3 minutes.
Bienvenue chez vous, votre magazine curieux et chauvin jusqu'à 11h sur France Bleu La Rochelle.
Il est 10h47, on continue à parler avec Mallory et Julien qui ont fondé Blutopia depuis 2018 pour sensibiliser à la préservation de l'océan à travers des documentaires, mais aussi des rencontres. Vous intervenez un petit peu dans les écoles aussi, comment ça se passe de ce côté-là, Julien ?
Oui, effectivement, on a 2 programmes pédagogiques à destination du public scolaire, donc on a les 8 mini-jeux Blutopia. Donc là, en fait, ça reprend le fil rouge du documentaire, et donc à travers 8 mini-jeux qui durent 10 minutes, les élèves vont pouvoir découvrir tous les liens entre alimentation et océan, avec l'impact notamment de la pêche, l'état de menace de chaque espèce, le transport de marchandises, les différents impacts des différentes techniques de pêche. Et on a aussi notre nouveau programme Les algues ont du bon, où là, on va tout simplement faire découvrir les bienfaits des algues, avec 3 séances qui sont menées par les enseignants et enseignantes. Et ensuite, nous, Blutopia, on intervient pour la sortie sur l'estran pour découvrir les algues, toutes les espèces qui vivent avec les algues. Donc là, les enfants, ils sont complètement excités, ils explorent, c'est vraiment des explorateurs. Et enfin, on leur dit, on leur partage les bonnes pratiques pour bien manger les algues, récolter ses propres algues sans endommager le milieu. Et enfin, plutôt à destination des parents, on organise un atelier culinaire pour leur montrer qu'on peut faire de très bons plats, de très bons apéros, notamment le tartare d'algues qui est le tartare d'algues de Blutopia, pardon, est tout simplement le meilleur du monde, en toute objectivité, d'après le label Julien Chalande.
Bah alors, on y met quoi dans ce tartare d'algues, justement ?
Alors, c'est très simple. Il suffit de prendre donc des algues que vous allez venir réhydrater. Donc des algues sèches réhydratées à l'huile, ou alors vous pouvez couper avec de l'eau pour les moins gourmands. Et ensuite, on rajoute câpre, échalote, cornichon, ail, un petit peu de gingembre, du jus de citron. Vous mélangez tout ça et ensuite, vous allez ravir toutes les papilles autour de vous.
Avec sur des tartines, tout simplement, avec quoi on le
avec
déguste.
du bon pain au levain naturel à la Rochelle. Je recommande vivement la boulangerie M qui fait de l'excellent pain.
Au levain, du coup, qu'on peut trouver là-bas, tiens, pour se faire un petit apéro qui change en plus et qui doit surprendre. Est-ce que les enfants, Mallory, sont plus réceptifs que les adultes dans les échanges ? Est-ce qu'il y a moins d'a priori aussi quand vous allez à leur rencontre ?
Oui, complètement. Alors, encore plus quand on va en école primaire ou en début de collège, on voit qu'ils sont curieux, qu'ils ont envie d'apprendre, qu'il n'y a pas... Il n'y a pas d'idée reçue, en fait, et du coup, ben, ils vont poser plein de questions sans se poser justement des questions avant de parler, et c'est hyper agréable. On voit que plus ils grandissent et plus ils vont réfléchir avant de parler. Ils s'intéressent aussi plus au regard des autres, et du coup, ça devient plus compliqué. Mais quand ils sont jeunes, en fait, ils ont les yeux. Enfin, c'est hyper agréable de voir aussi à travers leurs yeux découvrir ce qui se passe sur les estrans rocheux. Quand on fait les sorties, on va à la plage et on va regarder les algues, mais on regarde aussi tous les petits animaux, tous les petits végétaux qu'il y a autour, et ils ressortent avec plein d'étoiles dans les yeux, et ça fait plaisir.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre activité de Blutopia au quotidien, dans tout ce que vous faites ?
Question pas évidente. moi, je dirais que c'est ce qui me plaît le plus, c'est véritablement d'agir pour la préservation de l'océan et de vraiment se lever tous les matins avec cette énergie qui est également nourrie parfois par de la colère, par de l'injustice, de l'incompréhension. Mais voilà, ce qui me plaît le plus, c'est véritablement d'agir pour le bien commun, quoi.
Et vous, Mallory ?
Et moi, de mon côté, je pense que c'est me questionner, essayer de comprendre ce qui se passe dans ce monde, comprendre comment est-ce qu'on peut agir, nous, à notre échelle, à plus grande échelle, de manière collective, et toujours re-questionner, en fait, ce qu'on pense savoir. On a beaucoup évolué depuis qu'on a créé Blutopia. Notre cheminement de pensée, il a avancé. Et en fait, à chaque fois qu'on rencontre des nouvelles personnes, on change peut-être d'avis ou on se repose des nouvelles questions. Et c'est ça que j'aime bien aussi, garder cette curiosité et pas rester sur ses acquis.
On va parler un petit peu de musique. Parmi les rencontres qui ont compté, vous avez rencontré du coup l'artiste Onde, que vous avez souhaité mettre en avant ce matin. À quel moment on le retrouve du coup dans vos projets ?
Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? Je sais même plus. Il me semble que c'est via les réseaux sociaux sur Instagram. Un jour, il nous a contactés en nous disant, bah, je sors un album, ça va parler un peu d'océan et j'ai envie de soutenir une asso locale. Donc lui, il est à Bordeaux. Bon, c'est pas 100% local.
C'est
pas très loin, c'est Nouvelle-Aquitaine. Et on s'est rencontrés. Il a tout de suite adoré ce qu'on faisait. La complémentarité aussi de nos différentes actions entre les films documentaires, les programmes pédagogiques, le podcast qui était pas encore né et puis les actions pour pouvoir changer notre alimentation avec les livrets de recettes, les ateliers culinaires. Et donc, il s'est dit, go, je reverse 1 € par EP vendu à Bluetopia pour
super
vous soutenir.
Chouette. Et c'est vous qui avez décidé de mettre cette chanson, La mer, en fin d'un de vos documentaires, du coup. Vous avez eu un coup de cœur pour celle-ci en particulier?
Ouais, on adore cette chanson et on s'est dit qu'elle serait parfaite pour le générique de fin de notre documentaire de l'assiette à l'océan et Onde a tout de suite accepté.
Et bon, on l'écoute tout de suite donc sur France Bleu La Rochelle, cet artiste bordelais Onde et ce titre, La mer.
Je lance une bouteille à la mer, tu me diras quand elle arrivera. Je lance une bouteille à la mer, trouve-la, trouve-moi. Je n'ai pas senti ce naufrage tout droit tomber dessus moi. Je pensais pourtant avoir tourné la page, mais j'aperçois l'épave de mes choix. Coulis sous mes larmes et mon chagrin, recherche ma bouée de sauvetage. Perdu dans le grand bleu sentimental, il n'y a pas d'âge pour regretter le destin. C'est incertain où je me trouve, troué j'étouffe, inconscient des règles. Comment flotter sans amour, comment nager sans oxygène? Je descends, plus la pression monte. Honte de m'enliser dans la dépression. J'ai trouvé au fond ce papier, ce crayon. Lis mes mots et ramène-moi un monde. Je lance une bouteille à la mer, tu me diras quand elle arrivera. Je lance une bouteille à la mer, trouve-la, trouve-moi. Cette bouteille en verre flottant dans l'océan de mes galères. Si elle pouvait venir te plaire, je n'y crois qu'en espérant. Quand l'esprit rentre dans une boucle et que la houle bat son plein, l'écume de mes jours s'envole, troublée par la force des vents marins. Ma solitude m'a rendu sourd, je n'entends plus que les souvenirs. Les vagues du passé sont lourdes, elles ont brisé mon navire. Je voulais virer de bord, découvrir d'autres continents. Un continent de mes remords, je pleure encore les temps d'avant. Je lance une bouteille à la mer, tu me diras quand elle arrivera. Je lance une bouteille à la mer, trouve-la, aide-moi.
Bordelais, ce titre à la mer, choisi par nos invités du jour, donc Mallory et Julien de l'association Bluetopia. Quels sont les projets pour les semaines, les mois à venir pour Bluetopia? Qu'est-ce que vous allez faire d'important ou de rêver aussi peut-être?
Eh ben, on va essayer de diffuser de l'assiette à l'océan sur une grande plateforme en ligne et sur une chaîne de télé nationale. C'est la première étape. Et en parallèle, ben, on prépare notre prochain film, Les Bonnes Vivantes. Et l'idéal, ce serait de trouver une boîte de production et un distributeur pour pouvoir diffuser ce film à grande échelle et faire une sortie cinéma dans 1 ou 2 ans.
Et d'ailleurs, l'équipe Bluetopia s'agrandit, donc on recrute une personne en alternance en chargée de communication. Donc si vous connaissez des étudiants ou étudiantes qui recherchent une alternance, eh ben, toutes les infos sur Bluetopia, jobs that make sense.
Donc vous êtes installé à La Rochelle. Le mieux pour vous suivre, c'est d'être sur les réseaux sociaux, sur Internet, forcément.
Oui, sur notre site Internet qui est en train d'être mis à jour, bluetopia.org, et sur Instagram, bluetopia-org.
On va terminer avec cette petite question qu'on pose à chaque invité. Quel est votre coin coup de cœur pour des balades avec cette sensibilité à l'océan? Où est-ce que vous aimez aller vous balader pour vous ressourcer, Mallory et Julien?
Bah moi, je pense que je vais partager mon dernier moment ressource. C'était le week-end dernier. On était au bout de l'île de Ré, au Lizet, pendant que Mallory était en train de surfer. Moi, j'étais dans l'eau avec ma combinaison et mon caisson. Et lorsque les surfeurs se reposent et attendent la série, et ben moi, je flotte à la surface en prenant le soleil. Et donc, c'est un moment de ressource très très enrichissant et qui fait énormément de bien. D'où le teint un petit peu hâlé aujourd'hui.
Bah oui, on note. Voici Mallory dans ce secteur aussi.
Oui, l'île de Ré, évidemment, pour aller surfer et un peu plus proche de la maison, même la plage du Roux, juste pour se baigner en plein hiver, peu importe la saison, ça me fait toujours un bien fou d'aller faire des bains froids.
Bon, en tout cas, on souhaite plein de succès à Bluetopia dans vos missions de préservation de l'océan. Et puis merci d'être venu ce matin sur France Bleu La Rochelle. À très vite.
Merci Chloé.
Merci, à bientôt.
Et cette émission est à retrouver sur francebleu.fr, en podcast, soit sur l'application ici.